Donc, je suis la directrice générale de la municipalité de la ville, M. Charpentier. On a le plaisir de vous voir ici en ce moment. Donc, vous êtes ici à la réforme du comité de démolition pour le 220 de Val. Je vais que vous saviez. Donc, le comité est formé de trois élus plus la mairesse qui est dotée sur tous les comités. Là. Donc, c'est la troisième rencontre du comité de démolition depuis sa création. Donc, chacun a des sujets différents. Donc, c'est la première rencontre sur le 220 de Val. Donc, le comité, ça fait pas si longtemps que le comité est créé. Là. Dans le fond, c'est créé ça de, par la, une obligation de la loi. Dans le fond, la loi prévoit que les villes doivent avoir un règlement de démolition pour les bâtiments qui sont plus vieux que 1960. Mais ici, la MRC des Pays d'en haut a choisi que c'était 1940.
Non, c'est le contraire.
Ah non, c'est le contraire. Donc, la loi, c'est 1940 et ici, la MRC a choisi que c'était 1960. Donc, tous les bâtiments qui sont plus de 1960 doivent passer par le comité de démolition. Donc, il y a des critères, bien évidemment, là, pour passer devant le comité de démolition. Il y a plus que le critère de l'année là, de construction, comme un bâtiment qui serait cité, mais qui serait après 1960, devrait passer quand même par le comité de démolition. Mais dans ce cas-ci, l'année de construction fait en sorte que ça doit passer devant le comité de démolition. Donc, comme je vous disais, c'est la troisième rencontre, la troisième fois que le comité se rencontre. Les premières fois, il n'y avait personne dans la salle. Donc, ce n'était pas des enjeux ou c'était pas des dossiers où il y avait des enjeux particuliers qui avaient été soulevés. Donc, dans ce cas-ci, sincèrement, on ne pensait pas que ça allait soulever autant de passion. Je veux dire quelque chose aussi parce que c'est important, tous ceux qui ont envoyé des lettres, ceux qui ont envoyé des oppositions, tout ça s'est rendu aux membres du comité en reconnaissance, même les lettres qu'on recevait aujourd'hui, tout ça a été acheminé au comité. On les a lus, nous aussi, à l'administration, l'ensemble des oppositions. Tantôt, je vais vous en faire un résumé, là. Tantôt, dans pas longtemps. Juste vous dire qu'il y avait des gens qui disaient qu'on n'avait pas été transparent, qu'on avait changé la date lors de la rencontre. Je veux juste vous dire que la rencontre avait toujours été prévue à 4h15, à 16h15. C'était ça dans la vie publique aussi, mais dans le journal, il y a eu une communication à l'effet que c'était à 18h30. Quand on l'a lu,
non, ça a été pris effectivement. Moi, je suis journal Accès.
Oui, oui.
Je l'ai été sur le site web de la ville, Mme Anne Levaux m'a analysé.
Oui.
Et je l'ai avisé qu'il y avait aussi une
erreur. Oui, ok, bon, c'est ça. Il y a eu une incompréhension sur ça que bon, sur le site internet, dans le journal, des rectifications ont été faites, mais dans la vie publique, c'est 4h15. Donc, on s'excuse, vous êtes ici quand même, c'est la bonne chose, vous avez des informations. Dans le fond, c'était pas que sur le moyen de communication, c'était pas que la publique. Là, donc, bien, si on vous voit en ce moment ici, c'est que l'information va circuler. Donc, je vais vous donner quelques précisions dans le dossier. Donc, ici, aujourd'hui, le comité est ici pour prendre une décision sur la démolition. Bien évidemment, il y a différentes phases dans ce projet-là. Donc, celui d'une reconstruction, et si vous aviez vu la pancarte pour ceux qui occupent le 220 de Val et qui restent aux alentours, vous avez vu qu'il y avait une affiche ici sur le site, qui avait un avis de démolition, qui avait une image aussi sur le projet. Dans le fond, ça, c'est l'intention du futur propriétaire de la future construction. Ce projet-là, il va évoluer. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se construire. À cette étape-ci, ce que les membres du comité doivent évaluer, c'est s'il y a une viabilité du projet. Évidemment, le projet n'a pas été ficelé dans son ensemble. Ça va être dans les prochaines étapes où ça va être devant le comité consultatif d'urbanisme, devant le conseil, pour la future construction. Donc, à cette étape-ci, là, au niveau de la future construction, c'est juste les membres du comité doivent se demander est-ce que c'est viable, est-ce qu'on autorise une démolition, est-ce qu'il va y avoir une reconstruction parce que s'il y a une démolition, ben, c'est une considération qu'il y a quelque chose qui peut construire. Pour les locataires, on comprend aussi que vous avez reçu une avis de fermeture du bâtiment là, par le propriétaire, puis vous l'avez quitté d'ici une date au mois de mars. Vous aviez aussi à l'aide de la ville qui demandait l'évacuation des occupants au propriétaire, donc la ville a fait parvenir. Ben, je vous en parle parce que la lettre a circulé. La ville a fait parvenir au propriétaire une lettre d'évacuation des bâtiments et des occupants pour leur sécurité. Donc, ben, il y a eu différentes communications avec le propriétaire là, pour rendre le bâtiment sécuritaire. Donc, c'était ça notre préoccupation par rapport aux gens qui sont là, c'est une préoccupation de sécurité. Donc, la demande d'évacuation n'est pas liée à la demande de démolition. S'il n'y avait pas de démolition, on serait quand même préoccupé par la sécurité des gens qui demandent. Pour plusieurs considérations, on est allé, on a fait des interventions, puis on a pu constater des choses, puis on a demandé aux propriétaires aussi de rendre les lieux sécuritaires pour les gens qui y habitent.
Juste une question.
Oui.
C'est quoi la fonction en ce moment, mettons qu'on ne parle pas de démolition de nouveau projet. C'est quoi ce.
Bien là, présentement, c'est une maison chambre.
Ça s'appelle une maison chambre?
Bien, je ne sais pas comment ça s'appelle officiellement, mais c'est ça.
Depuis août 2022, c'est une maison chambre.
C'est ça. Okay. Donc, c'est pas des appartements, c'est des chambres dans.
Des chambres appartements, c'est ça.
Dans le fond, là, ce que je vais vous demander, parce que puis je vais vous le dire, là, dans le fond, je vais finir mon petit laïus pour essayer que ça soit le plus court possible, parce qu'après ça, le plus important, c'est qu'on puisse vous écouter. Je vais vous demander de venir ici, on va faire les questions une à la fois. C'est pour ça que les membres sont ici pour vous entendre. Je vais essayer de faire ça court. Donc, les membres du comité que je suis rendu là sont ici pour vous entendre. Donc, ça fait partie du processus. Je vais vous écouter vos préoccupations. Je vais vous expliquer comment on va procéder. Puis, en parlant d'écoute, là, on sait que les occupants du bâtiment sont préoccupés par la situation, puis ça, c'est très compréhensible. C'est pour ça qu'on a des intervenants du CI3S qui sont ici aussi. Dans le fond, on s'est rencontrés d'avance pour voir comment on pouvait vous accompagner puis vous écouter. Donc, les intervenants sont six, là, en arrière, sûrement. Donc, c'est les personnes qui ont des vestes blanches ici, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ils vont être ici pour être sensibles à ce qui se passe. Là. Si vous avez des besoins, ils sont là pour nous. Donc aujourd'hui, les membres là, du comité ils ont trois choix. C'est soit prendre une décision favorable, soit prendre une décision défavorable, ou soit reporter leur décision. Donc, comme je vous disais tantôt, on a reçu vos propositions. Merci. là, je vais vous en faire un petit résumé. C'est un résumé parce qu'il y avait plusieurs lettres là, où il y avait des considérations qui étaient semblables. Je sais que vous retrouviez pas mot à mot ce que vous avez écrit, mais inquiétez-vous pas, tout s'est rendu au posé. Donc, ce que vous avez écrit, là, c'est que vous ne voulez pas de démolition pour faire place à des condos. Vous considérez que c'est un bien patrimonial avec une architecture unique. Vous pensez qu'il y a des enjeux sociaux et urbains. Vous ne voulez pas de haute densification dans ce secteur. Vous avez des préoccupations quant à l'augmentation de la circulation, la sécurité, la tranquillité des lieux, votre quiétude en lien avec la densification. Vous êtes préoccupé aussi par le bassin versant et les considérations de protection environnementale par rapport au lac Rhône. Vous pensez qu'il y a certains enjeux au niveau de la sécurité publique, considérant les caractéristiques géologiques environnantes, c'est-à-dire, y aura-t-il dynamitage, est-ce que quel sera l'impact pour les bâtiments environnants. Le nouveau projet pourrait avoir des conséquences sur la valeur des propriétés environnantes. Là, je dis ce que vous pensez. Le développement du quartier s'est fait en fonction de ce bâtiment, puis les constructions environnantes font front vers ce bâtiment. Le projet contrevient au règlement actuel au niveau du nombre maximum de logements par habitant, l'aire de stationnement qui ne serait pas conforme, ainsi que la préservation des espaces verts. Donc ça, c'est plus par rapport à la nouvelle construction. Vous pensez qu'il y a certains impacts environnementaux majeurs au niveau de l'eau souterraine, au niveau du risque d'affaiblissement du sol, au niveau du drainage inadéquat et risque d'inondation, puis au niveau de l'abattage d'arbres nature. Vous Vous nous mentionnez que cela affecterait grandement notre environnement visuel dans ce quartier unifamilial et solliciterait davantage les infrastructures actuelles, déjà très vétustes. Vous souhaitez que les futures constructions soient harmonisées avec l'environnement, c'est-à-dire la nature et les résidences, que le futur projet puisse prévoir un pourcentage raisonnable de logements acclimatiques et ainsi aider la crise du logement. Et pour les locataires, vous dites que la relocalisation des locataires actuels se fasse avec un souci réel de leur trouver un endroit décent et abordable, selon leurs moyens très limités, et vous êtes préoccupé par le fait de taux d'occupation des logements locatifs à Saint-Adèle. On sait que le taux d'inoccupation est très bas, effectivement. Donc, c'est un résumé de ce qu'on a reçu. Les élus sont ici pour vous entendre sur si vous avez des éléments nouveaux à porter à l'attention des membres pour qu'ils prennent leur décision. Donc, comme vous êtes beaucoup de gens, on a mis quelques règles en place pour que ça soit chaotique, que ça se fasse dans l'harmonie. Donc, je vous demanderai de vous présenter au bout de train pour vous exprimer. Donc, comme ça, ça va donner un temps de transition entre chaque personne pour s'assurer que personne ne parle par-dessus l'autre. Je vais vous demander si vous êtes respectueux dans vos commentaires. Les membres du comité, là, ils ne sont pas en opposition avec vous. Là. Ils sont ici pour vous écouter et pour prendre la meilleure décision dans l'intérêt collectif. Donc, ce n'est pas une question de un contre l'autre. Tout le monde est là pour écouter tout le monde. Puis, de faire des hochements de tête, je suis certaine que c'est ça que vous pensez. et puis, on va prendre une question à la voix. Puis, s'il vous plaît, quand vous venez au micro, ça se peut que vous soyez d'accord avec ce que la personne dit ou ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec ce que la personne vous dit, mais ne parlez pas un par-dessus l'autre. La personne qui est ici au micro, c'est elle qui parle. Si vous avez quelque chose d'autre à dire, après, vous viendrez, on va les prendre un après l'autre. Ça. Donc, là, comment on va fonctionner? Est-ce que vous voulez, Mme Le Gretchen, faire l'ordre du jour de la séance avant?
Ah, l'adoption, oui.
Oui, c'est ça. On va faire c'était les consignes, et on va encore
lire. Donc, c'est l'adoption de l'ordre du jour qui propose?
Richard, alors, le propose.
Tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Oui, d'accord.
On a eu la présentation de la demande par ce...
Oui, peut-être que ce que je pourrais dire, peut-être que je pourrais parler des critères que... Bon, d'accord. Donc, pour prendre leur décision, là, le comité, certains ont lu le règlement, ils sont bien au courant, mais je vais le répéter pour tout le monde. Le comité doit examiner la demande à l'amiable de certains critères d'évaluation. Donc, il y a l'état physique de l'immeuble, la détérioration de l'apparence architecturale, de la valeur patrimoniale, le caractère esthétique de la construction et où son impact sur son milieu, le coût de restauration de l'immeuble par rapport à la valeur de celui-ci, les oppositions reçues, l'utilisation projetée du sol dégagé. Lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, on doit considérer le préjudice causé aux locataires, les besoins en logement dans les environs, l'impact sur l'offre de logement sur le territoire de la ville, la valeur patrimoniale de la construction et la préservation des éléments identifiés au règlement de situation de l'immeuble et la viabilité et la pertinence du projet de remplacement proposé en lien avec les objectifs du plan d'urbanisme.
Madame,
vous pouvez
avoir des contrats pour poser des questions techniques à savoir, il me semble qu'avant de faire une demande de démolition, est-ce qu'on devrait savoir pourquoi on veut démolir? Dans quel état qu'est le bâtiment? Ne doit-on pas préserver à tout prix, considérant tout ce qu'on a démoli au Québec depuis 50 ans?
Je pourrais faire partie des questions. Oui.
Les commentaires.
Est-ce qu'on se fait rendre compte?
Oui, on est rendu.
OK, parfait. Parfait.
Moi, j'ai été l'instigateur d'une pétition en ligne. Puis, il y a 300 noms presque que je vais remettre. Mais moi, je me dis que vu qu'il y a 300 noms, ça, je pense que ça vaut la peine que je la lise. Fait que je vais prendre le temps de lire. Est-ce qu'on ouvre ça ou non?
Steve Velançon.
J'habite sur la rue Richer.
C'est pour l'enregistrement.
Ah, fait que ça, c'est pas besoin, OK. Fait que c'est un... Bon, c'est plus ou moins long. Ceux qui l'ont déjà lu, ça sera peut-être redondant, mais c'est quand même intéressant. Fait que 300 noms ont signé cette pétition qui dit « Nous, les signataires ci-dessous, sommes contre le projet de démolition et reconstruction du site au 220 rue Lesage, Saint-Adèle, qui a été annoncé le 1er février dernier. Les raisons de notre opposition sont les suivantes. Donc, il y a 8 raisons. La première, qui est, la première, c'est un peu comme une introduction résumée. La résidence Manoir des Pays d'en haut est un bâtiment historique construit vers 1910 pour les Sœurs de la Providence. Les religieuses sont venues dans la région, commençant l'enseignement aux enfants. Elles ont vécu environ 80 ans dans ce bâtiment. Bon, pour le bas. Les méthodes de construction de l'époque, j'en ai entendu parler, en font une structure très solide et stable, de même que patrimoniale par sa rareté. La construction est rare, et on les détruit aujourd'hui. Et au lieu de la démolir, on pourrait lui donner d'autres fonctions. Des travaux de rénovation et de restauration pourraient être entrepris pour préserver sa structure et son intégrité. Le bâtiment possède une architecture distinctive et une valeur patrimoniale significative pour notre communauté. Sa démolition entraînerait la perte d'un élément important de notre histoire locale et nuirait grandement à l'esthétique du quartier. Ce bâtiment a été le premier construit dans le quartier, autour duquel l'harmonie du reste de l'environnement s'est développée. Toutes les maisons autour ont été construites et orientées en rapport à ce bâtiment. Le tout s'est dessiné par ce centre architectural du paysage qu'était le couvent des Sœurs de la Providence. L'esthétique du quartier et son âme se distinguent par les grands espaces ouverts et les franges de forêt, autant sur le terrain du 220 rue Lesage que sur tous les autres terrains autour. Le bâtiment a aussi son histoire liée à celle de l'église, qui est sa voisine et forme un tout avec elle. Point 2. Il est dorénavant admis que le développement durable exige que l'on conserve les bâtiments qui n'ont pas atteint leur fin de vie, ce qui est le cas de cet ancien couvent, comme nous venons de le souligner. En réhabilitant de vieux bâtiments, les villes et les collectivités peuvent donner naissance à des quartiers recherchés et intéressants, tant sur le plan visuel que social, tout en faisant preuve de responsabilité environnementale. La conservation du patrimoine par la réhabilitation d'édifices contribue à un éventail d'avantages, notamment en réduisant les grandes quantités de déchets de démolition, en sauvegardant d'importantes ressources non renouvelables ainsi qu'en limitant les énormes gaspillages d'énergie diverses liées à tout projet de démolition-reconstruction non nécessaire. Point 3. Bien que les coûts de restauration puissent être substantiels, ils doivent être mis en perspective avec le dit développement durable, ainsi qu'avec la valeur intrinsèque et historique de la construction, qui a une valeur patrimoniale, architecturale, esthétique, d'harmonisation du quartier, historique pour la ville, et une valeur au niveau de l'esprit et de l'âme de Sainte-Adèle dans sa distinction culturelle. Investir dans la préservation de notre patrimoine architectural est un investissement dans l'identité et le caractère de notre ville et du Québec en entier. Point 4. Quant à la valeur patrimoniale et à la préservation des lieux, du bâtiment en question et de son terrain émane l'importance historique et culturelle des fondateurs de Sainte-Adèle, dont étaient les Sœurs de la Providence. Il y a un esprit du temps distinctif à Sainte-Adèle, entre autres lié aux belles histoires des pays d'en haut, et nous voyons cet esprit culturel et historique s'effacer lentement avec les restructurations et modernisations des quartiers. Cela est une richesse inestimable qui se trouve dans un processus de péril irréversible. Il est de notre devoir de préserver pour les générations futures cette histoire, cette culture et cet esprit propre à Sainte-Adèle. 5. Ça a été dit, le projet affiché témoigne de la vision des promoteurs qui envisagent la construction de 4 édifices ayant de 30 à 33 unités chacun, ce qui excède les limites de zonage qui sont de 6 unités par bâtiment. Le quartier adjacent est zoné résidentiel, où il y a une nette majorité de maisons unifamiliales. Résulterait d'une telle vision de l'urbanisme une augmentation drastique du trafic et du bruit, ainsi qu'une densification extrême de la population, toutes hors proportion avec l'harmonie des lieux et de l'environnement. 6. Petit point. Il y a aussi un danger de dommages causés par le dynamitage pendant la construction pour les maisons existantes aux alentours, incluant le Lacron. 7. Quant aux écosystèmes environnants, il y a danger d'une augmentation de la pollution de la région et du lac. Densifier les bassins versants d'un lac, c'est le cas pour le terrain en question, densifier les bassins versants d'un lac peut avoir des conséquences drastiques et néfastes sur la qualité de l'eau et les écosystèmes environnants. Plus il y a d'asphalte et de béton sur la surface du bassin versant, plus il y a d'écoulements contaminés. La densification accroît ainsi le ruissellement des polluants tels les engrais, les pesticides, les hydrocarbures et les déchets urbains vers le lac. Cela engendre une contamination de l'eau nuisible à la faune aquatique et potentiellement dangereuse pour la santé humaine. Dernier point, 8, après ça il y a une petite conclusion. 8, à cause de toutes les raisons mentionnées ci-haut, il est aussi assuré que si un tel projet va de l'avant, les propriétés du quartier vont perdre substantiellement de leur valeur. Pour plusieurs, ce sont des efforts financiers de toute une vie. En tant que membres de la communauté, nous nous joignons à d'autres voix qui s'opposent à cette démolition. Notre opposition collective témoigne de l'attachement profond que nous avons pour notre patrimoine, notre histoire, notre environnement bâti, le développement durable et pour l'environnement. En conclusion, la démolition du bâtiment au 220 rue Lesage serait une perte irréparable pour notre communauté et un gaspillage culturel et énergétique. Nous vous exhortons donc à rejeter cette demande et à explorer des alternatives qui permettraient de préserver et de restaurer ce précieux patrimoine. Donc, près de 300 signatures. Et c'est en cours, hein, parce que le délai était court. Cette pétition a été mise en ligne seulement samedi à midi et déjà on a 300 noms. Alors, les noms se rajoutent encore. Je ne pourrais pas les déposer, malheureusement, mais ils sont en cours sur le site Internet. Ah oui, et... Et aussi, je veux mentionner que Fédération Histoire Québec et les amis et propriétaires des maisons anciennes du Québec ont déposé une lettre à la greffière. Je ne la lirai pas, mais c'est une belle lettre aussi de deux organismes du Québec. Je la dépose aussi ici. Merci. Oui, je sais, vous l'aviez déjà.
Merci beaucoup. Dans le fond, ça rejoint...
Bonjour. Alors, est-ce que, donc j'imagine, si on ne répète pas, c'est parce que les conseillers ont tous pris connaissance de nos lettres.
C'est ça que j'ai dit tantôt. Les lettres ont été reçues,
okay.
J'ai fait un résumé de ce qu'on
mais
a reçu,
pour...
ils en ont pris connaissance jusqu'à les dernières lettres qu'on a reçues aujourd'hui.
Parfait. Alors, mais pour les gens, quand même, Marie-Martine Bédard, je ne suis pas contre le développement, bien que j'ai appuyé la pétition, mais je suis contre le développement sauvage. Et ça, de la manière que le projet est soumis, pour moi, c'est du développement sauvage. Un, il y a plein d'alternatives pour préserver notre patrimoine, du moins l'architecture. Si l'intérieur n'est pas possiblement... On peut garder les façades des bâtiments, on peut... En plus, on peut proposer... Je n'ai pas vu de proposition de projet libre, de récupération de matériaux, de quoi que ce soit. Il n'y a pas rien qui me convainc dans ce qui a été présenté. En plus, que c'est densifié beaucoup trop, ça changerait trop le caractère du quartier. C'est clair. Et au niveau du bassin versant, je pense que beaucoup de gens en ont parlé. Mais si on regarde juste le bureau du dentiste qui a ouvert, je n'ai jamais compris pourquoi on a permis d'asphalter le stationnement quand il aurait fallu que ça soit en roche pour que l'eau puisse se filtrer avant d'arriver au lacron. Un lacron qui est déjà sur le bord d'une journée à l'autre, ça pourrait changer la situation du lacron. Donc, il n'y a rien dans ce qui a été proposé dans ce projet-là qui me convainc en tant que citoyenne, payeur de taxes, que c'est, on a vraiment réfléchi à la chose, qu'on est préoccupé par préserver l'architecture au moins. Si l'intérieur, ce n'est pas récupérable pour des raisons qui réexercent, je pense qu'il y a beaucoup de municipalités au Québec qui ont démontré qu'on peut garder, même à Montréal, des façades de bâtiments tout en changeant leurs caractéristiques intérieures. Il y a aussi au niveau des projets liés, des matériaux pour être récupérés, puis il n'y a rien de ça qui est proposé dans ce que j'ai vu. Donc, il y a encore matière à réfléchir et je pense et je souhaite qu'on va reporter la décision et qu'on va demander aux promoteurs d'aller refaire ses devoirs. Voilà.
Merci. Pouvez-vous me rappeler votre nom que je n'ai pas eu le temps de noter?
Marie-Martine.
Marie-Martine.
Bédard, voilà.
Merci.
Merci.
Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, messieurs les conseillères, conseillers. Avec tout le respect que je vous dois, je suis résident du manoir. Bon, écoutez, moi, là, j'ai fait un gros possible.
Est-ce que vous pouvez parler plus fort, déjà?
Oui, excusez-moi. Moi, ça... Oh, parfait. C'est parce que je suis résident du manoir. J'ai fait des 20 heures de bénévolat. Donc, je suis rentré là, 40 heures, même des 60 heures par semaine. Parce que c'était vraiment délabré. Il y avait 2 ans de négligence. Mais que voulez-vous que je vous dise, M. Giguère, s'il ne reçoit pas à moitié des loyers, c'est pas mal dur d'avoir de la maintenance. Et en plus, j'ai un travail à l'extérieur. Donc, tout ça pour vous dire que hier, j'ai reçu la visite de M. Lupien. Je pense que tout le monde le connaît, hein? Bon, alors lui, il a inspecté ça, puis il dit, il n'y a pas matière à détruire ça. Puis il y a eu aussi un inspecteur en bâtiment qui est venu tout vérifier, puis tout fait visiter, puis la structure est excellente. Cependant, c'est vrai qu'on est en crise du logement. Les 130 familles qui veulent s'installer là, ils ont le droit d'avoir un gîte. Mais est-ce que vous avez peut-être songé qu'il n'y aurait pas un autre endroit? Parce que l'immeuble, la structure est impeccable, il n'y a pas de craque nulle part. Il y a eu beaucoup d'inconformités, comme les panneaux électriques, là. C'était pas normal dans le cadre qui était à même. L'inspecteur en incendie, il dit, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas travailler. Je me suis tout débarrassé de ça grâce à mon superviseur qui est M. Hugues Dion, que moi, je me rapporte toujours à lui. Je fais exactement ce qu'il me dit de faire, en plus de mon travail. Je suis très fatigué, par exemple. Et je vous demanderais humblement, c'est que moi, je ne suis pas inspecteur en bâtiment, mais eux, ils ne trouvent pas qu'il y a matière à détruire ça. Mais avez-vous songé, Mme la mairesse, que peut-être qu'il n'y aurait pas un autre site, les Laurentides sont grandes? Mais je le sais, c'est plate, mais moi, je peux me relocaliser ailleurs. Je paye 1 000 pour mon petit 2,5. Fait que je suis capable de me placer ailleurs. Mais je pense à... Il y a des gens qui ont pas, sont très pauvres là-bas. Puis c'est vrai qu'il y a des cas de santé mentale, il y a des abus de toutes sortes. Moi, je n'ai pas arrêté de réparer des choses. Il y a 3 personnes qui ont été évincées car ils faisaient du vandalisme. Ils coupaient les hausses des laveuses. Je me suis ramassé avec des inondations. Je travaillais, j'étais rentré, ça n'avait plus de bon sens. Ces gens-là ont été évincés. OK, il y a eu des procédures. C'est vrai que la régie du logement, ce n'est pas de leur faute, ils manquent de personnel. Alors, la partie défendresse est rendue à partie de demanderesse parce que là, la chicane pogne à un moment donné. Je comprends, M. Giguère, mais comment voulez-vous qu'il paye s'il manque des dizaines de milliers de dollars en loyer? Alors, moi, je trouve, personnellement, même si je suis non-connaisseur, mais d'après l'inspecteur en bâtiment, ainsi que M. Lupien, ils disent qu'il n'y a pas matière à détruire ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre. En vous remerciant. Je vous remercie beaucoup, mesdames, messieurs.
Ouais. Dans le fond, ce qu'on, juste avant, là, ce qu'on va vous demander, c'est d'avancer vos chaises le plus possible. On va les déranger pour que les gens qui sont dans le portique puissent aller debout en arrière.
Bonjour messieurs, dames, bonjour à l'Assemblée. On va commencer par l'environnement. Moi, je suis technicien et surveillant de chantier en génie civil pour une firme qui comprend 1300 employés au Québec. On a 20 satellites à travers le Québec. Le dynamitage, ça c'est une chose qui va emmener énormément de pollution dans notre lac. On va passer maintenant à l'aspect du bâtiment. Le monsieur tantôt parlait d'un inspecteur en bâtiment. C'est moi qui suis passé voir la bâtisse hier. Je suis inspecteur en bâtiment depuis 2005, donc je sais un petit peu de quoi je peux parler. La bâtisse représente un aspect extérieur en brique. À mon avis, il y a moins de 15% des joints de mortier qui sont à refaire. Donc on ne peut pas parler de travaux majeurs par rapport à la grandeur de la bâtisse. J'ai eu l'occasion de parler à plusieurs personnes que dans les environs considèrent comme des personnes un peu yo-yo, crackpot, un petit peu dérangées de la cervelle, si on peut s'exprimer ainsi. J'ai pas eu cette impression-là de ces personnes. Le bâtiment par lui-même, je suis allé aussi, j'ai regardé les murs extérieurs. Il n'y a pas de bombage, il n'y a pas de partie concave ni convexe sur les murs, ils sont droits. Donc pour moi, je considère que c'est des travaux mineurs par rapport à la finance qu'on va mettre dessus. J'ai eu l'occasion aussi d'aller dans le sous-sol de cette bâtisse. J'ai visité à peu près, 70% de la fondation intérieure. Je n'ai pas vu aucune infiltration d'eau. Donc maintenant, ça va être à vous de voir un peu qu'est-ce que vous voulez faire avec cette bâtisse, mais d'un point de vue professionnel, ça serait une grosse erreur. Après ça, on va parler de notre tranquillité. Moi, j'habite sur la rue Beauchamp, entre l'église et le lac. J'entends le dynamitage qui se passe de l'autre bord du mont du Sommet Bleu. Parce que là, pour l'instant, ils vont construire 25 unités ou à peu près là, de bâtisses. Et les personnes qui habitent sur le Sommet Bleu, là, ils entendent ça à longueur d'année, à part l'hiver. Donc, notre havre de paix, comme on pourrait l'appeler, avant qu'on commence à détruire notre paysage patrimonial, ça va être un petit peu de la pollution de notre environnement, pas juste de la pollution du Lacron, mais de notre pollution pour le bien-être qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que le dynamitage, on va en avoir un toutes les demi-heures ou toutes les heures. Je ne sais pas si vous savez le bruit que ça fait, mais même s'ils sont étouffés par des matelas, ça fait énormément de bruit. Au risque de me répéter, c'est sûr que la pollution va s'en aller vers le lac. Hein. La nappe phréatique, surtout qu'elle n'est pas très haute. Il y a aussi le fait que on va avoir combien de milliers de passages de camions par jour? On va avoir combien de grues qui vont arriver sur le terrain pour démolir cette bâtisse? Et après ça, une fois que ça va être démoli, on va faire en sorte que ça sorte du site, parce qu'ils ne vont pas récupérer les matériaux pour refaire les nouveaux immeubles. Et après ça, une fois que ça va être fini, cette affaire-là, on va recommencer, parce que là, on va avoir de la construction. Vous avez vu le bruit que ça fait pour construire une maison. Je m'en souviens encore, moi, avant d'acheter la maison, je connaissais déjà Barbara, la dame qui est... quand on sort de l'église, à droite, on a fait construire un bâtiment avec des condominiums. Je n'ai pas besoin de vous parler plus longuement de le bruit que ça va faire pour toutes les gens qui sont dans le coin. Sans compter le danger de tous les enfants qui vivent dans cette partie de Sainte-Adèle. Ça va être tout pour moi.
Merci.
Je lis ici que les propriétaires de 1988
Est-ce que qui est propriétaire? Je suis désolée, mais pour une question ordinaire, qui est le propriétaire? C'est
compagnie
à
numéro.
Est-ce que c'est la compagnie qui est inscrite ici en 1988? Bertrand, monsieur Aimé Bertrand, Lucien Brouillet, Joseph Arcadio.
Les propriétaires sont
policiers
actuellement.
Pardon?
Les propriétaires sont policiers actuellement.
Non, mais je demande qui est propriétaire.
C'est une compagnie.
C'est ça, c'est une compagnie. Ça fait longtemps?
Je ne sais pas exactement.
Le
nom des numéros, c'est
quoi son
nom?
Quand c'est
une compagnie,
c'est
pas un nom.
Mais il y a un numéro.
Des numéros. Ça appartient à quelqu'un, la compagnie. Oui, mais des fois, c'est une compagnie, c'est des compagnies qui sont propriétaires de la compagnie.
Oui, mais il y a des numéros. Mais il y a un numéro. Il y a un numéro de compagnie. Donc, vous l'avez, de toute façon, le numéro de compagnie. Ils ont fait une demande pour...
De démolition.
D'accord. Bon, d'accord.
Nous, moi, dans le fond, là, à l'étape qu'on est, je répète, là, on est à l'étape de la demande de démolition. Donc, le propriétaire a fait une demande de démolition.
Ah, d'accord.
Non.
Bon, maintenant...
Non, excusez-moi, c'est pas le propriétaire qui a demandé la demande de démolition. C'est le promoteur qui a demandé.
Oui, mais il y a un promoteur, un arrière. Qui, lui, a un projet que vous avez vu sur la pancarte. Mais nous, la personne qui fait la demande, qui doit, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui veut faire un projet là-dessus, c'est pour que le propriétaire soit d'accord. Le propriétaire,
il a signé la demande.
Nous, légalement, le propriétaire fait une demande.
C'est pas le promoteur qui...
Mais lui, il a peut-être un projet.
Le propriétaire.
Nous, c'est le propriétaire qui fait une demande. Pour qui, pourquoi?
Parce que le propriétaire, je pense qu'en principe, il embauche un promoteur selon ce qu'il veut faire.
Là, c'est un promoteur qui a fait une promesse d'achat à condition.
À condition.
Donc, le promoteur demande.
Le promoteur veut acheter du propriétaire.
Si les conditions sont rencontrées, il va acheter.
D'accord. Parfait. Bon, je ne veux pas répéter rien, mais juste que monsieur qui a parlé avant moi, il a dit, oui, que l'environnement, bon, c'est pas si mal, les bâtiments, les murs droits, les fondations, ça semble assez bien. Alors, je suis d'avis qu'on maximise cette habitation-là, c'est-à-dire rénover les murs, peut-être faire des appartements, quoi, dans le bâtiment actuel, faire des appartements, et si vraiment... La ville l'autorise, peut-être un bâtiment secondaire qui pourrait comporter moins de logements pour ne pas créer d'impact sur le lac. Parce que le lac, c'est une priorité, parce que toutes les bâtiments, si le lac, on perd le lac, bien, toutes les propriétés autour perdent la valeur énormément, c'est un crash qui s'en va en bas comme ça. Et mon autre valeur, c'est le patrimoine. Alors, c'est pour ça que ma préférence, c'est de garder le bâtiment pour le patrimoine bâti, tout en c'est très important, tout le monde l'a dit. Bon, alors c'est ça. Puis s'il y a de la place, oui, il y a de la place, c'est un immense, je pense, combien de pieds carrés?
C'est grand.
Oui, c'est certain qu'il y a de la place pour créer un aménagement qui s'intègre dans l'environnement avec... un paysage qui respecte, peut-être en termes de hauteur aussi, conserver. Ça, c'est combien d'étages? 3,5? Comme tellement 3 étages. En tout cas, conserver une harmonie, là. Il y aurait de la place pour créer un autre bâtiment neuf, mais qui s'harmonise avec ça, évidemment. Dans les couleurs, dans le style aussi d'architecture. Merci.
Merci.
Bonjour. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, côté patrimonial, côté environnemental. Moi, j'arrive à un point crucial de ma démarche où je veux savoir c'est quoi ce projet-là. J'ai fait le tour, c'est peut-être moi qui ai mal renseigné. J'ai fait le tour de 3-4 personnes autour de moi, personne ne sait ce qui se passe. Je pense qu'il faudrait savoir vers quoi on s'en va avant d'aller plus loin. Est-ce que c'est des comportements? Pour moi, c'est important, que ce soit des condos locatifs ou à vendre. Pour moi, c'est une énorme différence.
Mais il n'y en a plus de condos qui se construisent à Saint-Élès, c'est du logement qui se
fait. C'est du logement, donc locatif.
Oui.
C'est ce que je voulais savoir. Merci.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Louise Bonenfant. Ce que je trouve important avec ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on pose beaucoup de questions. Et puis, il y a la question que je trouve qu'il ne faut pas oublier. Il y a une crise du logement. On parle de démolition. On va amener des gens qui sont déjà là ailleurs. Mais est-ce qu'il y a quelque chose ici à Sainte-Adèle? Est-ce qu'il y a des projets? Tu sais, on y a le projet au théâtre. Belle intégration architecturale du théâtre qui est déjà existant. Ça peut amener des idées pour une intégration architecturale pour un vieux couvent. Il y a un projet rue du Cap. Il y a plusieurs projets. Mais dans tout ça, est-ce qu'il y a un projet de logement à moyen, on pourrait dire logement à loyer modique, OK, pour toutes les personnes, y compris celles qui vont être délogées du couvent, où il y aura un accès sécuritaire à du logement? Parce que là, la façon dont ça se présente, et moi je fais partie, je reste au sommet bleu, là, je suis très touchée par ça, mais il faut faire attention pour ne pas créer un conflit entre les gens autour qui veulent protéger leur quartier et les gens qui voudraient s'intégrer dans ce quartier-là avec un logement abordable. Puis je pense qu'il va falloir comme développer davantage. Je sais qu'il y a des subventions, il y a des subventions du gouvernement pour les logements à loyer modique, et il faut vraiment développer ça. Par ailleurs, tout ce qu'on a dit aujourd'hui par rapport au patrimoine, je ne le répéterai pas, j'ai signé la pétition que M. Mélenchon a lancée, mais il faut faire attention, il faut vraiment qu'il y ait de la place pour tout le monde.
Merci.
Bonjour, alors mon nom c'est Élise Gauthier. J'ai travaillé de nombreuses années au Café communautaire L'Entre-Jean à Sainte-Adèle, café qui est connu par une grande partie de la population. J'ai eu le plaisir de côtoyer beaucoup de citoyens et citoyennes, dont entre autres de nombreux résidents et résidentes du manoir. Le projet de démolition, moi je suis d'accord avec beaucoup d'interventions qui ont été faites ici, la signature pour le patrimoine, je l'ai signée, la préservation du lac, c'est aussi dans mes préoccupations, la question de l'environnement puis de la quiétude, ça fait partie de mes préoccupations. Mais aujourd'hui, ma plus grande préoccupation, ce sont les locataires qui sont là actuellement, qui ont reçu un avis à l'effet que le 20 mars, ils vont être dans la rue, ici à Sainte-Adèle. Et le 20 mars, il fait fret. On est en hiver. Et depuis plusieurs mois, il y a des rencontres qui se font avec la municipalité, avec le CIUS, avec le comité qui s'appelle Un toit pour tous. Et il y a des demandes qui ont été adressées à l'effet que, est-ce qu'on a un plan B? Est-ce qu'on a un plan de mesures d'urgence pour ces gens-là qu'on ne veut pas voir dans la rue? Et moi, je me pose la question, est-ce qu'on va toujours balayer les plus pauvres à l'extérieur? Parce que quand on construit des 120 logements avec des stationnements souterrains, on sait très bien, entre vous et moi, que ça ne sera pas des logements abordables. De toute façon, l'abordabilité, il va falloir s'en reparler. Ça ne sera pas des logements sociaux. Fait que tous ces gens-là qui arrivent, qui ont les poches bien pleines, qui sont capables de se payer des logements à 1500, 1800, 2000 $, c'est des gens qui ont des sous et qui ont besoin des services. Ici, à Sainte-Adèle, on veut développer des services, on veut développer la communauté, c'est plein de bonnes intentions. Mais la fille, là, ou le gars qui travaille chez IGA, qui place les cannes, il est payé à peu près 16 $ de l'heure. Il n'est pas capable de se loger. Puis, pour avoir travaillé avec beaucoup d'intervenants dans différents milieux communautaires, que ce soit avec les jeunes au niveau du labyrinthe, de la maison des jeunes, Cap-Emploi, Carrefour Jeunesse Emploi, qu'est-ce qu'ils nous disent toujours dans chaque réunion? C'est que les jeunes veulent travailler. Ils ne sont pas capables de se trouver de logement parce qu'ils n'ont pas des gros salaires. Alors, ils s'en vont. Ils s'en vont à Laval, ils s'en vont à Saint-Lin, ils s'en vont où est-ce qu'ils peuvent essayer de se dénicher un logement qu'ils vont être capables de payer. Puis qu'ils ont... Parce que tous ces gens-là ont le droit à une vie décente. On a tous droit à une vie décente. Puis le droit au logement, c'est un droit fondamental. Alors, avant de démolir, pour laisser place à des gens que je vais être bien contente de saluer dans la rue, j'aimerais qu'on se préoccupe de ceux qui sont là. Puis tantôt, il y avait quelqu'un qui disait, ben on pourrait, la structure est bonne, la fondation est bonne, pourquoi on n'investit pas pour réaménager cette maison-là en offrant aux résidents qui sont là des espaces de vie qui leur permettront à eux aussi, avec où ils sont rendus dans leur parcours, sans jugement, de vivre une vie comme on a tous le droit. Fait que voilà mon point de vue par rapport à cette question de démolition.
Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous souhaitiez porter à l'attention du conseil? Monsieur, vous aviez une question tantôt.
Ça ressemble beaucoup à ça. Moi, mon nom est Daniel Leduc, je demeure au 231 rue Lesage. Ça vous donne une idée où ce que je reste. L'entrée est juste dans ma porte principale. Je ne vais pas jouer aux gendarmes. En fait, je vais vous faire l'historique. Que moi, je suis venu m'installer ici. Je suis un étrange, mais je viens d'ailleurs. Je suis venu m'installer ici parce qu'il y avait du plein air, il y avait de l'espace. On ne reviendra pas là-dessus. Moi, je pense qu'il est important, c'est de préserver cet environnement-là. Puis si vous avez besoin des idées, là, allez voir toutes les villes qui ont eu des couvents. Ils ont toutes rénové. Châteauguay, Chambly, pour nommer qu'eux autres. À Québec, il y en a plein d'expériences de rénovation de bâtiments. Ces gens-là construisaient très bien. Ils ont bien des défauts, là. Les communautés religieuses, mais ils n'avaient pas ce défaut-là. Il y avait de l'argent, ils investissaient, puis ils construisaient bien. L'hôtel de ville de Châteauguay, c'est un ancien couvent passé deux fois au feu. Est en cours de bout. C'est pas pire, hein? Puis on a ajouté un ascenseur, puis on fait plein d'affaires. À la Chine, à Chambly, il y en a plein. C'est notre patrimoine. Respectons, respectons. C'est nos aînés qui ont construit ça. C'est notre futur. Si on veut un avenir, si on veut une ville belle, rénovons nos espaces. Puis effectivement, c'est pas en faisant des logements qui vont coûter 300-400 000 chaque, qui vont coûter 2 000 Je suis d'accord avec la madame, là. C'est la réalité. J'ai trois garçons, puis je vais vous dire qu'ils pédalent en crise pour se trouver un logement des fois. Merci.
Bonsoir. Louis-Philippe Dupuis, comité Toi pour tous. J'ai la chance de travailler avec Élise qui est intervenue ici pour les locataires au manoir. J'ai la chance aussi de travailler avec certains locataires qui habitent le manoir. On pense beaucoup à eux. J'ai une question, en fait, j'aimerais ça vous, si vous étiez capable d'y répondre. Est-ce que le propriétaire a dépassé le délai de 60 jours pour se conformer à la demande que la ville a faite d'évacuer? Donc, est-ce qu'on peut présumer que le propriétaire, en ce moment, a encore le temps de remettre à niveau?
Depuis cet été, là, qu'on fait les demandes aux propriétaires pour remettre à niveau,
ouais.
Il peut toujours le faire, notre propriétaire, remettre à niveau, mais là, il ne le faisait pas, puis il n'y a rien qui avançait.
Okay.
Donc là, on lui a donné un ultimatum, mais s'il nous appelle...
L'ultimatum, la date, l'ultimatum, c'est quand?
Il y a une date précise, là, c'était 60 jours de l'envoi, je crois.
À partir de l'envoi qui amenait au 20 mars?
Ben, là, ça, je ne sais pas quand elle a été envoyée. Ben, je n'ai pas la date exacte, je ne veux pas...
Bon, là, ici, je n'ai pas ici. Ah, là, on a dans le...
Pourquoi faire une demande de démolition ou de se pencher sur la démolition quand on n'a pas encore l'information du propriétaire comme quoi qu'il ne se plierait pas à la demande de la ville?
C'est ça qui m'aide tout le monde depuis le début, c'est qu'en parallèle, lui, il fait une demande de démolition, mais nous, là, même si déposait pas sa demande de démolition. Nous, on a fait une demande d'évacuation des gens pour leur sécurité. Fait que même s'il n'y a pas de projet, si on est préoccupé et qu'on lui demande de mettre à niveau le bâtiment. Fait que, il peut toujours la mettre à niveau
retiré sa demande de démolition. Nous, on n'a pas demandé de démolir. La demande de démolition ne vient pas de la ville.
Là. Mais là, aujourd'hui, vous ne savez pas s'il va se plier ou non, encore.
Là, lui, il a fait une demande de démolition. Puis,
c'est lui. D'ailleurs, je m'excuse tout à l'heure, je pensais que c'était vraiment que ça, non, ça provenait du promoteur.
C'est pas grave.
Okay. Puis, OK, puis disons... suite à l'acceptation de la ville pour la démolition ou non, mais sinon, si vous acceptez la démolition, c'est quoi les délais pour les locataires?
Ben, en fait, nous, on ne donne pas des délais. C'est le propriétaire du bâtiment ou son gestionnaire qui, lui, a donné des délais. Mais nous, on n'a pas donné de délai. On a donné un délai pour corriger la situation.
Mais okay. Si on a admettons qu'il y a un permis de démolition, il y a un an pour démolir. Il y a un délai pour... Tu sais, son permis est valide un an. Mais il n'y a pas... Tu sais, nous, on ne dit pas faut que vous devez mettre... évincer vos locataires.
Donc, son offre d'achat sera acceptée parce qu'il y a la possibilité de démolir. Il achète, après
mais
ça, ça se fait nouveau.
On ne connaît pas toutes les contours de ton offre d'achat.
Ouais. Non,
je
ne
sais pas c'est quoi...
Nous, on parle...
Il y a une période d'appel de 30 jours après la décision aussi. Puis, s'il y a eu... c'est là, ce que je... Je lis le règlement, c'est tout. En fait, là... c'est comme... Si là, en fait, il y a une 30 jours pour aller avoir des demandes de révision. Puis le conseil... aussi peut demander une autre révision de 60 jours après ça. Donc, il y a comme un délai de 90 jours. Ça, c'est juste pour le permis de démolition. C'est pas pour la démolition en soi. Comme la greffière a dit, c'est il y a un an pour démolir après ça.
Merci.
Peut-être que j'ajouterais que dans les étapes, là, il y a le permis de démolition, mais après ça, il y a le futur projet, lui, il n'est pas encore accepté. Il y a ces étapes-là aussi du futur projet.
Qui nous ramène à... Qui nous amène
à... ça dépend de quelle voie tu l'as. Si tu utilises la voie simple de... Il respecte la réglementation en vigueur, là, il va faire un projet de plein droit. Mais le projet que vous avez vu, plusieurs l'ont dit dans les lettres, c'est pas un projet de plein droit. Là. Il y a des...
Il y a des
choses qui ne respectent pas la réglementation, donc il doit passer par un autre processus qui est plus long.
OK, merci. Je pense à prendre en considération que ce n'est pas juste un immeuble qu'on démolit ou qu'on veut démolir. C'est un milieu de vie. C'est un lieu où les gens y reçoivent des services. Ils ont un toit sur la tête. Moi, c'est moi qui fais la liste de logements disponibles dans la région. Puis je suis bien placé pour vous dire que, puis vous le savez de toute façon, une pénurie de logements, pensez à ça, pensez à eux. Merci beaucoup.
J'ai juste une question ici. La ville, après tout ça, elle n'a pas le goût de se prévaloir de règlements. Parce que laisser aller un bâtiment pour après ça demander un permis de démolition, ça ne se fait plus toujours. Nos bâtiments patrimoniaux, parce qu'avant qu'on appelle ça, c'était la route des pays d'en haut, hein, parce qu'on en fait une promotion touristique aussi, ça apporte des revenus à la ville. Est-ce qu'on a l'intention, avec ce que vous vivez depuis que vous êtes en poste, de faire des règlements qui vont protéger, qui vont empêcher ce genre de pratique-là? Parce que monsieur, ce que j'en comprends, n'a aucun intérêt à entretenir son bâtiment. Il y a une offre d'achat conditionnelle à une démolition. Lui, il doit se faire offrir un très bon prix. Il assure sa retraite. Et c'est envers et contre tous. Donc, est-ce qu'on va pouvoir se prévaloir de règlements qui vont nous protéger et les logements abordables et aussi notre patrimoine? Est-ce que vous avez l'intention de mettre sur votre planche de travail un projet comme ça?
Normalement, il y a un règlement qui n'autorise pas nécessairement les... Donc, le monsieur, lorsqu'il va déposer son projet, il n'est pas réglementaire. Donc, il va être soumis aux gens pour le... qui veulent,
mais que même une personne ne puisse pas, avec un bâtiment patrimonial, faire une offre d'achat conditionnelle à une démolition.
Ça serait déjà y réfléchir. Le règlement sur la démolition voit à ça que les bâtiments, ils doivent passer par une étape d'une analyse par un comité avant d'accepter la démolition. Donc, si j'ai bien compris de votre inquiétude, le règlement sur la démolition est là pour suppléer. Là,
ça n'existait pas.
C'est plus un règlement pour l'entretien.
Pour le patrimoine aussi, pour l'entretien. Ceux qui ont des, sont propriétaires de bâtiments patrimoniaux.
Mais il n'est pas patrimonial. Il
n'est pas cité, mais il serait peut-être temps de s'occuper de nos bâtiments qui en
font partie. On a eu des discussions, je peux vous dire, le parallèle qu'on a fait, c'est qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à entretenir son véhicule. Mais à partir du moment où le véhicule est dangereux, on peut le retirer de la route. Fait que si ça fait un parallèle qui est un peu boiteux, là,
oui.
Mais les bâtiments, les bâtiments, on ne peut pas obliger, dans, la, dans l'étape actuelle, là, obliger les gens à faire l'entretien. Par contre, quand il devient dangereux pour les occupants, c'est la situation qu'on vit présentement, on a l'obligation d'intervenir pour protéger les occupants.
Alors, il n'y a pas moyen non plus d'avoir des règlements quand c'est par rapport à des bâtiments qui ont une valeur patrimoniale. À ce moment-là, c'est différent. On doit se soumettre aussi quand on rénove à certaines règles. Donc, en théorie, est-ce que c'est possible? Est-ce que des municipalités, est-ce qu'on a regardé s'il y a des municipalités qui se sont prévalues de ce genre de règlement-là pour protéger leur patrimoine architectural?
À ma connaissance, il y a des bâtiments patrimoniaux qui sont laissés à l'abandon.
Malheureusement, on est au Québec. Pour... Merci.
Bonjour, moi je m'appelle Charles Olivier, j'habite au 219, l'autre côté de la rue, donc je suis aux premières loges depuis 25 ans que j'habite là. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit au niveau de la préservation du patrimoine de ce bâtiment-là, qui a une valeur exceptionnelle pour Sainte-Adèle. Toutefois, il y a un enjeu de sécurité qui n'a pas été soulevé par rapport à la vocation actuelle de ce bâtiment, qui est une maison de chambre. Je suis très d'accord qu'il y a des personnes très vulnérables qui habitent dans ce bâtiment-là, mais il y a toutefois aussi un enjeu de sécurité très important. Relié à ça, pas plus tard qu'hier, il y avait 10 voitures de police de la Sûreté du Québec qui étaient sur place. Et j'ai vu pour la première fois Sainte-Adèle des policiers sortir avec une mitraillette carrément pour aller intervenir à l'intérieur de ce bâtiment-là. Moi, j'ai deux enfants en bas âge et depuis 2 ans, je dois superviser lorsqu'ils sont à l'extérieur parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie assez importantes dans ce bâtiment-là. Je sais que la démolition n'est pas intrinsèquement reliée à la vocation. Je sais que c'est deux dossiers séparés. Je suis tout à fait d'accord à la préservation de ce bâtiment-là au niveau du patrimoine, au niveau de redonner une valeur, une deuxième vie, faire les rénovations nécessaires, mais toutefois, trouver peut-être une façon d'encadrer le projet qui va se trouver là et d'en faire un milieu sécuritaire pour les gens qui y habitent, avec des intervenants peut-être communautaires. Et les gens qui y sont là, c'est pas tout le monde, il y a des gens exceptionnels qui habitent là, mais il y a des enjeux quand même importants de sécurité qui doivent quand même être soulevés au niveau de la ville. On a déjà déposé une pétition concernant ce sujet-là. Là, ce qui est de l'avis d'éviction qui est donné pour le 20 mars, est-ce que si le propriétaire se conforme, la vocation de l'établissement va demeurer ainsi, si c'est le cas, si les rénovations sont faites pour préserver le bâtiment qui est là actuellement?
On ne peut pas parler pour le propriétaire si tu veux faire un petit tour de son bâtiment. Ce n'est pas nous qui pouvons décider.
D'accord. Merci.
J'ai une question pour le citoyen qui parle. Est-ce que vous estimez un gros coût ou un coût mineur pour que les sorties soient réglementaires par rapport au code de sécurité? Pour que la sécurité des occupants soit... Il y a des modifications au niveau de faire une rampe.
Non, ce n'est pas au niveau de la rampe, c'est au niveau d'avoir des soins des gens, des intervenants sociaux reliés. En ce moment, la vocation, c'est une maison de chambre, mais ce n'est pas supervisé par aucun intervenant social. Quand tu as des gens psychiatrisés, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des toxicomanies, ça prend des intervenants sociaux. Oui. Ça doit être géré par une maison supervisée. Je ne sais pas c'est quoi la formule que ça prend, mais ça prend quand même un encadrement de demande. Certains de ces gens-là, si ce n'est pas le cas, je sais qu'ils sont en lien avec le CLSC, mais quand même, ça fait qu'il y a eu des incidents quand même assez graves qui sont arrivés là. La police est là 3 fois par semaine en moyenne. Donc,
depuis 2 ans.
Depuis 2 ans.
Il n'y a pas eu d'intervention policière à part celle d'hier.
Je pose ma question.
Il devrait y avoir une supervision de certaines personnes dans cette sortie, ou même peut-être les exclure de cette sortie.
Oui, j'entends des choses qui sont en dehors du cadre municipal. On est bien au courant de vos préoccupations, on a bien entendu, c'est un bon point. Oui, on a reçu la pétition, puis on est en lien avec les intervenants, c'est pour ça aussi pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, mais c'est pas simple. Fait que, merci.
Oui, madame la mairesse. Oui, vous avez parlé qu'il y a des éléments qui sont en dehors du cadre d'une municipalité. Mais moi, j'ai lu dans la presse ce qui se passe à Montréal. Il y a beaucoup de logements insalubres. Et là, je me pose la question. La question de salubrité, bien, sécurité, oui. Mm-hmm. Salubrité. Est-ce que j'ai compris tantôt que la ville exigeait du propriétaire que ça soit plus salubre? Est-ce que j'ai compris ça, que la ville exigeait?
Bien, c'est tout simplement au niveau de la sécurité, incendie, etc., que c'est un nid à feu.
C'est pas conforme.
Non, c'est pas conforme.
Bon, quand un bâtiment n'est pas conforme, salubrité, sécurité, incendie, tout ça, qui est responsable? Est-ce que la municipalité est responsable de faire établir ces règles, rétablir les règles, donner des amendes s'il le faut, mais que les propriétaires se conforment?
Oui, l'avis d'évacuation, c'est justement ça, c'est de se conformer. S'ils se conforment, il n'y a plus d'avis d'évacuation.
Ah. Ça fait plusieurs mois là, qu'on essaye de trouver des solutions.
Puis, y a-t-il des amendes? Est-ce qu'il y a eu des amendes? Parce qu'au bout de la ligne, il y a des amendes. Donc, au niveau de la circulation et tout, si on ne se conforme pas.
Les avis ont été donnés conformément à notre réglementation.
Est-ce qu'il y a un avis avec des amendes? Mais à Montréal,
s'il ne reçoit pas de loyer, il ne peut pas payer d'amende.
Okay. Oui, mais regardez.
Tantôt, monsieur, il a dit qu'il y avait des gens qui ont l'argent, qui sont là. On va parler une à la fois.
C'est pas évident. Qui est la maman puis le papa des propriétaires qui n'entretiennent pas leur loyer? Qui sont les... Une municipalité est-elle responsable pour ses occupants, ses propriétaires dissident? À Montréal, les logements ne sont pas entretenus. On a vu une dame enceinte, là. C'est vraiment insalubre. Mais est-ce que, il me semble que la municipalité devrait dire, nous, on est les parents, là. Les propriétaires, là, on va vous aider. On va vous donner des règles pour que ça soit salubre pour nos locataires, pour tout le monde. C'est ça que j'aimerais que ça se passe comme ça.
Peut-être que je peux répondre en partie à votre question. Dans le fond, nous, la municipalité, nous, on peut encadrer, puis c'est vrai.
Oui.
C'est ça que je veux dire, en fonction de nos règlements.
Parfait.
Donc, quand c'est une question de salubrité,
oui.
Bien là, c'est comme dans n'importe quoi, là, quand vous restez dans votre maison à vous, si oui. C'est insalubre, il y a des intervenants du C3S qui peuvent, si vous êtes d'accord, intervenir auprès de vous. Là, c'est une question de est-ce que vous voulez ou pas. Si c'est une question de sécurité. Du bâtiment,
oui.
Nous, avec notre règlement sur la sécurité incendie, on peut intervenir.
Oui.
Nous, on intervient à partir de ce règlement-là.
L'incendie.
Si c'est une question de
salubrité.
De la régie du bâtiment, mais là, c'est le tribunal administratif du Québec qui peut intervenir dans le logement.
Ben, il y a le logement pour la salubrité.
Oui. Oui.
Il y a
beaucoup
de
gens. On peut
surtout intervenir quand c'est rendu qu'il faut quasiment demander une
démolition. Mais là, ça ne semble pas le cas, là. C'est
une
bâtisse solide.
C'est pas ça qu'on a demandé.
Non, c'est ça. Bon, enfin, il y en a une responsabilité, là. Je vois ça comme une famille de parents, là. Mais je pense qu'il y en a une responsabilité, surtout à Montréal, là. S'il n'y a pas de demande donnée aux propriétaires qui laissent aller les maisons puis qui les locataires sont obligés de rester là, c'est grave. C'est irresponsable. Je dirais que c'est même irresponsable.
Après, merci.
Merci.
En fait, c'est fini. Les questions qu'on avait sur la démolition, c'est fou.
Oui, c'est ça. Dans le fond, le comité doit prendre sa décision concernant la demande de démolition. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, il y a un monsieur, vous avez la main levée. C'est concernant la démolition.
Concernant la démolition. C'est un élément électrique où j'ai une confusion et que je demande qu'une enquête soit faite. Il y a 2 ans, quand on a eu une panne générale à Sainte-Adèle, il n'y avait plus d'électricité dans cet immeuble. Mais il y a une chambre qui a brûlé. Les pompiers sont intervenus. D'après M. Dion, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en chaise roulante et qu'il ne peut pas se déplacer, mais lui, il est au courant de cet immeuble parce que ça fait au moins 10 ans qu'il y réside. Le pompier, quand il est sorti de cet immeuble, il a dit c'est une cause électrique, alors que la dame qui habitait dans cette chambre avait une bougie parce qu'elle n'avait plus d'électricité. La bougie est tombée sur le bureau où il y avait des cosmétiques. Les cosmétiques ont pris feu, le matelas a pris feu, la chambre a flambé, ils l'ont éteint. Il y a juste l'apparence, les structures n'ont pas été touchées. Le pompier, quand il est sorti, il a dit au policier, c'est une cause électrique. Ma question, c'est comment on peut avoir une cause électrique quand il n'y a pas d'électricité dans la maison? En passant, M. Dion, il a des documents par une compagnie d'électricité qui est passée il y a 2 ans quand ça a passé de maison pour les personnes âgées à maison de location, confirmant que l'électricité était adéquate.
Mais de toute façon, la recherche des causes se fait pas lors de l'incendie, ça se fait après. Ouais. Même si quelqu'un a dit...
Pour l'instant, il y a un certificat de conformité au niveau d'électricité qui a été émis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre en considération. Et il y a un monsieur de Bell, lui par exemple, monsieur Dion n'a pas de document, mais le monsieur de Bell qui s'occupe des systèmes d'alarme qui sont reliés pour avertir en cas d'incendie, lui a dit, si un jour tu as un problème, tu peux m'appeler, puis j'irai voir les gens qui te parlent de que c'est pas conforme, parce que ton installation est conforme. Okay. Voilà. Merci. Ça fait plaisir.
Question du comité au nom du...
On va poursuivre la rencontre du comité. Le comité s'est rendu au point 5, décision pour le 220
de l'affaire. J'aurais quelque chose à rajouter. Puis-je? Je vais être court.
Oui, allez-y.
Tout ce que j'ai dit et que j'avais écrit par rapport à mon attachement au patrimoine, c'était vrai. Sincère, je marche beaucoup dans le quartier et je le sens. Je ne savais pas que ça aurait une telle résonance. Et j'ai senti que ça avait une résonance. Je sais que la ville peut citer un bâtiment pour qu'il devienne patrimonial. Oui. N'est-ce pas le cas?
Oui, il y a des règles. Mais...
Il y a des règles, mais vous pourriez. La ville a le pouvoir de citer un bâtiment pour qu'il devienne patrimonial. N'est-ce pas?
La ville, la MRC, puis le ministère des Affaires culturelles et des communications. C'est trois organismes qui pourraient citer.
La ville peut le faire.
La ville peut le faire.
Ben, j'ai senti qu'il y a un engouement suffisant pour que ça soit considéré comme alternative. Mm-hmm. Deuxième chose... Quel pouvoir qu'a une ville pour s'approprier des lieux, pour en faire un parc?
Mais c'est des coûts, monsieur.
Oui, je sais. Tout est des coûts, évidemment. La question, c'est quel est le pouvoir d'une ville pour s'approprier d'un lieu et en faire un parc?
On peut exproprier
et faire un parc.
Ouais.
Oui, évidemment. Mais c'est des alternatives qui sont belles et intéressantes. Combien il y a de parcs dans ce quartier-là pour les familles avec des balançoires, des trucs comme ça? Il n'y en a aucun. Zéro. Non, pas dans ce quartier-là.
Il y en a un à l'intersection de la Côte-Morin. Et...
Non,
mais...
Excusez-moi, on n'est plus dans l'émotion.
C'est une forme d'expropriation, mais on ne peut pas déguiser. Regardez toute la problématique des terrain de drive actuellement, qui se passe. Il y a un bâtiment. On veut sauver le bâtiment. On ne fera pas un parc avec un bâtiment comme ça. On va être dans un chalet de parc. Il y a des limites à l'expropriation.
C'est des questions.
Où il faut mettre le point, les villes, vous avez le droit de demander au ministère de la Culture de protéger ce bâtiment-là. Tous les bâtiments que vous voulez, si on prend un examen, pour qu'un architecte fasse des travaux, pour qu'il y ait une recherche, il y a des coûts, mais ça vaut la peine. Vous protégez ces bâtiments-là contre tout le développement sauvage qui peut se faire. Et malheureusement, il y a des villes qui ne l'ont pas fait et il s'est démoli plein de maisons de Fourmayeur au Québec. Le principe qu'il n'y a jamais maison, il n'y a que ça qu'à faire parce qu'il va le terrain sur le bord de l'eau. Alors, moi, je vous suggère à l'appui de monsieur de dire, attendez-vous là-dessus, identifiez, mettez un comité, vous avez un comité culturel, mettez un sous-comité là-dessus, identifiez tous les bâtiments ou espaces, puis définissez les bâtiments qui en valent la peine, faites un projet d'ensemble, et ça va dans l'esprit de, des pays d'en haut, là. C'est-à-dire, on a un territoire protégeons-les. C'est pas juste des bâtiments, c'est des territoires, c'est des rues, c'est des montagnes, c'est des choses comme ça.
Je peux te dire, est-ce que la MRC pourrait être contactée, à savoir qu'il pourrait, la MRC pourrait se charger de la discipline ou de la sécurité dans ce bâtiment-là non. pour non. des personnes non. qui en ont besoin, je parle... Pour en faire comme une maison, hein? Il y avait
c'est pas dans les responsabilités de la MRC non plus, mais on prend votre commentaire.
Pour la population qui en a besoin.
Oui, oui.
Ça, c'est parce que la population a besoin, cette clientèle-là a besoin d'un lieu pour demeurer. Et avec un peu de rénovation, peut-être un autre pavillon à côté et de la surveillance. Une personne sur place constamment. C'est créer de la surveillance pour un.
Donc, si ça vous va, je vous demanderais juste d'écouter la décision.
OK. Je suis membre.
Trop tard.
On a eu les commentaires que le bâtiment n'est pas sécuritaire. Par contre, on a eu des commentaires. Monsieur avait beaucoup d'expérience, qui a passé là-dedans, qui a dit que c'est sécuritaire. Moi, je veux savoir qui est-ce qui a dit que c'est pas sécuritaire. C'est quoi les étapes?
Okay, je peux répondre partiellement, parce que puis je ne devrais pas m'avancer à l'étape actuelle, là, mais je vais le faire quand même. Là. Il y a différentes choses qui peuvent faire qu'un bâtiment n'est pas sécuritaire. Ça peut être sa structure qui peut être défaillante, il y a un risque d'affaissement de la structure. Mais ça peut être plein de choses. Entre autres, la signalisation des issues est très importante au niveau du code. On le retrouve autant dans la partie 3 que dans la partie 9 du code, où on détaille spécifiquement l'ensemble des règles qui doivent être appliquées au niveau de l'identification des issues et plein d'autres choses. La largeur des corridors en fonction du nombre d'occupants. Et ceux qui connaissent bien le code là, vont me comprendre. Mais je n'irai pas plus loin que ça parce qu'on se perdrait dans des considérations
techniques. Mais ce que je peux juste ajouter, c'est qu'il y a des règles à respecter en fonction de l'usage aussi. Donc là, l'usage actuel, selon l'usage, ben, il y a des normes de la règle du bâtiment qui ne sont pas respectées, plus de la sécurité
OK. Je pense que tout le monde réalise bien que le problème est complexe. Le comité en est venu à la conclusion qu'on ne prendrait pas une décision immédiatement. On a besoin de plus d'informations aussi qu'on va demander pour faire ajouter à la demande. J'ai marqué, je peux vous lire, là, le comité est en droit de s'attendre à des informations complètes et probantes. On avait 10 critères inscrits déjà dans le règlement de démolition. Il y a certains éléments qui sont manquants, entre autres les photographies intérieures qui n'ont pas été, produites. Ensuite, ce qu'on demande, c'est un avis d'expert indépendant. Pour l'instant, l'avis qui a été donné n'était pas à notre idée, n'avait pas le caractère d'indépendance qu'on souhaitait. Donc, on va demander aussi une estimation des coûts justes de la rénovation, ce qui n'a pas été fait. Donc, ça va prendre une analyse de la structure actuelle avant de commencer à parler des coûts de rénovation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, pour l'instant, c'est ce qu'on va demander. Là. Je vais vous répondre tout de suite. Ouais. Un expert indépendant, ça est au choix du propriétaire. Par contre, il est tenu par sa corporation professionnelle.
Ben, ils ont pratiqué beaucoup d'études dans l'environnement, notamment, et c'est pour ça qu'ils ont changé de nom. Si on revient à la mine de Nouria, ben, au cas, au public, au passé d'enfer et tout ça, c'était des plein de projets au Québec, c'était des études
privées. Ah, oui.
Donc, est-ce que.
On n'imposera pas un expert, on va demander un avis d'expert qui soit indépendant. C'est le règlement tel qu'il est écrit, il est écrit comme ça.
Comment
vont devenir les gens qui y habitent présentement? Est-ce qu'ils vont se retrouver à la rue ou si vous allez expansionner
La balle est dans le camp du propriétaire, madame. Si le propriétaire se conforme aux exigences de la ville, les gens vont pouvoir rester. Si le propriétaire ne se conforme pas aux exigences, les gens vont devoir quitter.
Nous, ce qui nous préoccupe, je vous le dis, c'est la sécurité des gens qui y habitent. Ça ne serait pas plus une bonne décision s'il y avait un incendie et que les gens restaient ici dans l'incendie.
Parce qu'on a eu un délai tellement court pour être autant de personnes ici. L'heure a changé. Alors là, on aimerait ça être tenu au courant dans les délais raisonnables.
Oui. Ben, la République, c'est combien de temps maintenant? C'était les délais de la loi, mais on va, là, je ne sais pas c'est quand on va refaire, c'est une autre séance publique pour prendre la décision, donc ça va être un autre avis public qui va être publié.
Où paraissent vos avis publics?
Ils paraissent sur le site Internet et sur les babillards de la ville. Sur
moi, j'ai reçu, comme par hasard, la programmation d'un âge scolaire.
Ouais.
J'ai plus d'enfants d'âge à aller là, mais j'ai plus d'avis public, puis je reste juste en avant. Je sais pas, là, me semble qu'utilisons les réseaux sociaux. Je sais pas, me semble que.
Pour nous avertir qu'il y a une rue qui est fermée, il y a des travaux à tel endroit. C'est drôle, on nous rejoint tous ceux qui sont inscrits. Si vous n'êtes pas inscrits, vous allez sur le site.
Puis d'ailleurs, vous avez reçu nos courriels, puis c'était très, très pertinent de nous aviser par courriel.
On ne peut pas aviser les gens personnels. J'ai reçu beaucoup de courriels. Vous savez qu'il va en avoir une. On fait un avis public. On publiera sur le site. Si il va publier sur le site de la ville, il va publier sur le Facebook.
Mais pourquoi vous pouvez envoyer de la publicité pour un relâche, des spectacles, ou pas m'envoyer?
Mais ça, c'est des publics. C'est la publique postale. Là. C'est envoyé à tous. C'est pas.
Je reçois ça sur.
On va en faire l'analyse. Ça a un impact plus que juste sur ce projet-là. Fait, si on le fait pour ça, on va le faire pour tout. Fait, on va en faire l'analyse dans son enfant. Mais on a bien entendu.
C'est sûr que dans le temps, je ne suis pas le seul à être commissaire en construction. Est-ce que lors de cette expertise faite par un expert indépendant, des citoyens peuvent assister? Pas une vingtaine, bien sûr, mais deux ou trois personnes assister à cette expertise.
Absolument.
Attendez, madame, il y a
un
monsieur en arrière.
Bonjour, je m'appelle Stéphane Cardi, je suis travailleur de lutte pour l'équipe de Valentine, j'accompagne un certain nombre de gens au manoir. Je peux vous témoigner qu'il y a une certaine anxiété qui est généralisée. Ces gens ont reçu des communications un peu contradictoires par moment. Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut compter sur vous pour vous engager à les informer sur la décision qui vient d'être prise ce soir, c'est-à-dire qu'il y a un délai qui est allongé dans le temps, juste pour les garder au courant eux-mêmes par rapport au 20. Je voulais juste signifier que le 20 mars, la lettre du 20 mars, ça a fait boum.
C'est bien la même chose.
Non, je sais que le fait que vous prenez la décision de prolonger votre réflexion,
oui, ça change rien. Ça change rien.
On va voir tout le monde assis sur le bord de la rue. J'en ai vu.
C'est une bonne question. Je pense qu'il y a encore une incompréhension. Le propriétaire, là, nous, on peut pas lui dire quoi faire.
Non, d'accord.
Lui, s'il décide, il met les gens à la porte de son immeuble à lui. Même si on décide de. Si les élus décidaient non, il n'y aura pas de démolition. S'il décide, lui, qu'il met des gens dehors, on n'a pas de pouvoir là-dessus.
Non, je comprends qu'il est lui face à la
porte. Lui, c'est sûr que là, on comprend que quand il a envoyé sa lettre, il a mis notre lettre en arrière, ça a mêlé tout le monde.
Ben, c'est ça.
Ça, c'est sûr, on a eu la conversation avec les intervenants du C3S, parce que même les gens du site étaient plus mêlés. Parce que c'était comme si nous, on avait demandé ça, mais nous, on n'a pas demandé ça.
Oui, je voulais juste terminer. Parce qu'il y a cette confusion-là, c'est pas la faute de la personne, puis
non,
c'est pas ce qu'on recherche.
Oui.
Mais est-ce que la ville peut jouer un rôle
de
sécuriser par rapport à tous les délais qui s'entremêlent, qui sont mêlés? Est-ce que il peut y avoir une communication de la ville, donc qui est solvable
pour
mettre ces gens-là juste pour qu'ils puissent.
Mais en fait, je vous répondrais, puis je vous répondrai pas. Je vous réponds ce que je peux vous répondre. Nous, on peut communiquer si c'est notre contrôle.
Oui.
Fait que ça, on peut le faire.
Non,
mais si on travaillait avec le propriétaire, mm-hmm. et
qu'il y avait de la collaboration ou on pourrait faire une communication, mais là, c'est pas ça la situation. Fait que nous, on peut communiquer comme aujourd'hui, vous dire qu'on décide, qu'on a fait par le passé, mais plus que ça, nous, on peut pas l'obliger à garder les gens dans le bâtiment. On peut pas changer sa date.
Oui.
On peut pas parler pour lui.
Non, c'est le fait que vous aviez trois options.
Ouais.
Et vous avez choisi celle qui prolonge la réflexion. Est-ce que ça a une incidence quelconque sur... Absolument
non,
pas.
Non. Parce que là, le propriétaire, lui, même si on prolonge, lui...
Il n'est pas content actuellement.
Je comprends. Le stress que vivent les gens qui sont là, qui reçoivent plein d'informations de différents acteurs. Et moi, je peux constater, je peux témoigner du fait que c'est une... On parlait un peu de l'instabilité, tout ça, j'entendais... Je comprends que les gens peuvent être inquiets, mais il y a peut-être une façon de contribuer en tant que communauté à les rassurer d'une façon ou d'une autre dans ce cafouillage d'informations. Pas un cafouillage, mais en fait, une multitude de sources d'informations. Ils reçoivent tout ça, puis ils sont de plus en plus méfiants. Il y a une certaine confusion qui amène à une anxiété. Je voulais juste aborder le sujet ici.
Le bon point, puis la vie est sensible à ça. Dans le fond, c'est pour ça qu'on est en lien avec ces projets, les intervenants qui, eux, sont là, et les intervenants qui sont là, je ne sais pas quotidiennement,
mais
exact. C'est pour ça que le lien va se faire par vous.
Avant de proposer la levée de l'Assemblée, je voulais juste souligner le caractère de très grande civilité qu'il y a eu pour un dossier qui est aussi chaud. Donc, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup de votre participation civile et respectueuse qu'on a eue pendant cette séance. C'est vraiment remarquable. Bravo à vous.
Merci. Vraiment, les quelques critères qui ont été nommés pour reporter la décision ne mentionnaient pas le patrimoine. Est-ce que la considération... La préservation du patrimoine.
On a déjà les informations qui nous ont été remises là, par notre greffière. On a déjà les informations pour être capable de tenir en compte cet élément-là. Jusqu'à quel point il va falloir qu'on ait des discussions. Mais c'est surtout, aujourd'hui, c'était d'aller chercher des informations supplémentaires pour s'assurer là, d'avoir une vision complète. Comme je vous dis, au niveau de la présentation du dossier, il y avait certains éléments qu'on aimerait avoir. On aimerait avoir plus d'informations. On en fait la demande au niveau là, de la résolution qui va être prise. Puis ensuite, on va en refaire l'étude complète. Et il va y avoir une autre session au niveau de la prise de décision où ça va être une session publique aussi.
Donc, ça semble anecdotique.
Je veux juste rajouter en fait que là, dans les critères qui sont stipulés dans le règlement, les oppositions... On a le devoir de prendre en compte les oppositions quand on fait une décision ultime.
Alors,
on a toutes vos oppositions et on les a beaucoup notées.
Est-ce qu'on va pouvoir avoir accès au rapport qui dit que c'est insécure dans cette voie?
Parce que là, c'est de l'information publique, je sais.
Ça va dépendre de comment ce SICAF avait produit, comment ça va être une demande d'accès à l'information qu'il faudrait faire à ce moment-là.
C'est quoi la procédure pour avoir cette information-là?
Ben, c'est une demande d'accès à l'information.
À qui?
Sur le site internet, tu écris, il y a un formulaire à remplir.
À la ville?
À la ville, oui, exactement.
Merci.
Monsieur.
Parce que les avis Les avis que les locataires ont reçus d'éviction, c'est pour démolition le 20 mars.
Lui, il a dit ça.
Maintenant que la décision est reportée, est-ce qu'on dit aux locataires qu'ils peuvent rester au 20 mars?
C'est le
propriétaire
qui pourrait
vous convaincre.
Mais là, c'est pas sécuritaire dans le bâtiment. Le propriétaire doit prendre des actions. C'est ça la première chose.
C'est ça
la première chose.
Pour
la démolition.
On va évacuer.
Allez-vous bâtir une tente pour recevoir ces gens-là qui vont être dans l'U?
Okay, on est à l'étape de lever la session. Qui en fait la proposition? Juste une minute à peine. on est à l'étape de lever la session. Qui en fait la proposition?
Propose.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
D'accord. La séance est...